Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Comment faire une édition spéciale sur le congrès Innovation en éducation sans interviewer son fondateur ? Julien Perron est une grande personnalité du monde de l'éducation en France. Je l'interroge aujourd'hui sur l'un de ses nouveaux projets, la publication d'un livre sur les écoles alternatives. On a ainsi parlé du parcours de ses ex-enfants qui sont passés par les écoles alternatives et de ce que cela a cultivé dans leur vie future. Un épisode qui a évidemment beaucoup de résonance avec mon histoire. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Julien.
Salut Stéphanie.
Je suis ravie d'échanger avec toi puisqu'on se retrouve, on s'était déjà vu lors de notre épisode numéro 73 où tu nous partageais ton parcours si inspirant, porté par une conviction que je comprends tout à fait, qui est que tout part de l'éducation.
Et oui.
Je ne vais pas revenir sur ton parcours qui est si inspirant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tu as de multiples casquettes dans ta vie professionnelle. Tu es réalisateur, producteur, chef d'entreprise et le fondateur du congrès Innovation en éducation qui aura lieu en février à Bordeaux. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve aujourd'hui. Mais tu viens aussi de publier un nouveau livre disponible à partir de janvier qui s'appelle « Quel avenir pour mon enfant après l'école alternative ?» Je trouve le sujet passionnant. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as décidé de traiter de ce sujet ?
Eh bien oui, écoute, ça fait pratiquement 10 ans maintenant que je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation. Et à force d'avancer dans ce vaste champ que représente l'éducation, ça m'a amené maintenant à être en contact avec, mais de manière assez transversale en réalité, quasiment avec, j'ai envie de dire, avec tout le monde en tout cas. J'ai un spectre assez large, ça va du ministère en passant par l'UNESCO, par des fondations, des ONG, et puis globalement tous les acteurs qui sont autour de l'éducation nationale et qui proposent des outils, des méthodologies. Et donc avec le Festival pour l'École de la Vie, où là on va arriver à notre 6e édition à Montpellier en 2024, on a déjà, je crois qu'il y a un peu plus de 50 000 ou 60 000 personnes qui sont venues depuis l'existence du festival. Et avec le congrès Innovation en éducation, là c'est notre 5e édition, et je pense qu'on doit frôler aussi les 4-5 000 personnes qui viennent. Et donc, entre les podcasts que je réalise, ces événements, le film « L'école de la vie, une génération pour tout changer » et tout ce que je fais en fait dans le monde de l'éducation, fait que je me rends compte avec le temps qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour des écoles alternatives. Mais vraiment beaucoup. Alors, peu importe, j'ai envie de dire, la pédagogie, qu'elle soit Montessori, Freinet, Reggio, Summer Hill, Steiner, etc. C'est pas une question de pédagogie, je crois que c'est vraiment plutôt une question de, que les gens se questionnent, quoi, en réalité, quoi. Et donc, quand je dis les gens, pour moi, c'est essentiellement les parents. Parce qu'ils savent pas trop, en fait. Alors, je reprends ce qu'ils disent, hein, quasiment mot pour mot, mais qu'est-ce qui va devenir de mon enfant après l'école alternative? Parce que c'est vrai que objectivement, quand on regarde, en tout cas en France, c'est pas vraiment le cas dans d'autres pays européens, mais en tout cas en France, on voit bien que la majorité des écoles hors contrat privées qui proposent des pédagogies un peu nouvelles ou alternatives, ça s'arrête au CM2, quoi, en gros. Collège, lycée, il y en a encore très très peu en France. Ça existe, hein, mais vraiment, on les compte sous les doigts d'une main. Hein. Donc quelque part, c'est légitime que les parents se posent la question parce qu'il n'y a pas de continuité derrière. S'il y a une continuité, une fois de plus, c'est assez rare. Ça dépend de là où tu te trouves. Si tu as la chance qu'il y ait un collège ou un lycée qui puisse prendre la suite, quoi, en gros. Et donc, il y a plusieurs questions. Il y a la question, donc, est-ce que mon fils va réussir ou ma fille va réussir à s'adapter après au collège ou au lycée? Pourquoi ça coûte cher, les écoles alternatives? Pourquoi c'est pas accessible à tout le monde? Il y a aussi, je trouve, beaucoup de... Il y a certaines écoles et certaines pédagogies qu'on pourrait qualifier de mouvements sectaires, comme la pédagogie Steiner, par exemple. En tout cas, les médias s'acharnent un peu sur cette pédagogie, quoi. Alors que, au final, c'est n'importe quelle pédagogie. On pourrait très bien citer Montessori, par exemple. On pourrait très bien se dire que, imaginons, on prend 10 écoles Montessori et on pourrait se rendre compte que dans chaque école, c'est complètement différent. Et pour un seul et même élève, ça pourrait ne pas se passer bien pour lui dans, je sais pas, 8 écoles Montessori sur 10, par exemple, quoi. Parce que c'est dépendant du directeur, de la directrice, du corps enseignant, de plein de paramètres en réalité. Donc, c'est même plus dépendant du statut d'école alternative, mais de l'humain. Donc, on pourrait le transposer aussi aux écoles publiques, finalement. Donc, voilà, il y a plein d'incompréhensions. Il y a les médias qui s'emparent de ça, certains médias, et qui transforment aussi un peu les choses. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, alors quand je dis nous, c'est avec Progressive Media, c'est l'agence avec laquelle on s'est associé pour éditer le magazine papier Innovation en éducation. Donc là, on en est déjà à notre 12e numéro. Et puis ensemble, on fait beaucoup de brainstorming. Et à un moment donné, dans notre brainstorming, il y a un gars de l'équipe qui nous a dit, mais en fait, il y a personne en fait qui a fait le job d'aller voir des gens qui sont passés par des écoles alternatives pour savoir ce qu'ils sont devenus, en fait, tout simplement maintenant, pour voir s'ils sont intégrés, je mets ça entre guillemets, vite tous les jours. Et en fait, on s'est dit, mais ouais, mais t'as carrément raison. Hein. Et puis, on a commencé à regarder autour de nous. On n'a pas vraiment trouvé d'outils, de livres, de films ou autres qui pourraient retracer réellement ce que nous, on avait envie de faire. Et en fait, l'idée, elle était hyper simple. Et c'est ce qu'on a fait, c'est de contacter des adultes qui sont passés par des écoles alternatives sur des tranches d'âge assez variées pour avoir un peu toutes les époques. Parce que bah, d'une époque à une autre, c'est aussi très différent. Donc là, ça varie de 20 ans jusqu'à 60 ans pour la plus ancienne. Et donc voilà, donc en fait, on a fait un appel à témoins. On a contacté les 7000 abonnés du magazine Innovation et Éducation, puis notre base de données, on a 120 000 personnes qui nous suivent. Et puis voilà, on a reçu un paquet de personnes qui nous ont dit en fait être passées par des écoles alternatives. Et en fait, là, une difficulté pour nous, ça a été de choisir au final, parce que je sais plus
qu'on
en avait, mais on en avait beaucoup. Et on s'est même questionné, on se disait, bon, est-ce qu'on fait un livre avec, par exemple, 100 retours d'adultes? Et c'était trop challengeant en réalité de faire un bouquin là-dessus parce que déjà rien que pour 15, on en a sélectionné 15, rien que pour 15, ça nous a pris un an pour faire les interviews, après pour les traduire à l'écrit aussi, pour que ce soit vraiment le reflet en fait de ce qui s'est dit. Donc on s'est contenté, j'allais dire, de 15 profils, mais qui sont pour nous vraiment le, bah, j'ai envie de dire, de ce qu'il y a de mieux pour des personnes qui se posent des questions parce que c'est, on est en plein dans la réalité, on est en plein dans l'expérience. C'est des gens qui ont vécu chacun des trajectoires de vie très différentes, avec des parents différents, des écoles différentes, des pédagogies différentes. Donc, je pense que c'est vraiment là, pour le coup, à chacun, après ce livre, de se faire sa propre opinion. Et c'est le but. L'idée, c'est, voilà, 15 trajectoires différentes d'adultes qui sont maintenant intégrés, je leur mets entre guillemets, dans la vie professionnelle. D'ailleurs, parmi les 15, il y a quand même l'ancien directeur de Primagaz, qui est, lui, passé par une pédagogie freinée à l'époque. Et donc voilà. Donc, et puis on a voulu rassurer aussi les gens, parce que quand je dis rassurer, tu vas comprendre, c'est que on a l'impression de notre prisme qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que les parents ou les élèves qui vont dans les écoles alternatives, c'est des baba cool, ou c'est des gens, tu sais, qui s'habillent pas comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on a voulu rassurer tout le monde justement parce qu'on a filmé. Donc c'est des interviews que j'ai réalisées filmées dans des studios, et on a voulu justement les filmer pour montrer aussi bah, à quoi ils ressemblent en fait ces gens, quoi. Et on voit bien que c'est des gens tout à fait normaux, comme toi et moi. Donc ça aussi, c'était important. Voilà, on réfléchit aussi, pourquoi pas, après, à faire un format vidéo, parce que bah, l'interview aussi qui ont été filmées. Puis j'en ai fait plus, en fait, d'interviews, il y en a 25, donc on les a pas toutes mises. J'ai même interviewé, d'ailleurs, des personnes qui sont passées tout simplement par des pédagogies classiques, hein, par l'éducation nationale, mais qui, à travers leur trajectoire, très rapidement, sont sorties de l'éducation nationale pour créer, en fait, leur entreprise, pour créer quelque chose. Bah Victoria Guillaumont, que tu as interviewé, en fait partie notamment. Et puis il y en a d'autres comme ça, Rebecca Sfage et d'autres personnes que je connais. Où, pour moi, c'était intéressant aussi de les interviewer parce que même si tu passes sur les bancs de l'éducation nationale, à un moment donné, il y en a certains qui sortent de là et qui créent en fait leur propre vocation et qui créent leur vie de rêve. Et on veut, à travers le livre « Après l'école alternative, quel avenir pour mon enfant ?», ce qu'on souhaite, c'est aussi montrer que finalement, il n'y a pas de trajectoire idéale. Moi, ce que j'aimerais, en fait, dans le futur, c'est qu'on puisse justement avoir le choix, que ce soit les enseignants ou les particuliers, puissent à un moment donné, donc toujours dans le cadre de l'école publique, hein, évidemment, parce que, à mon sens, les écoles alternatives, c'est pas du tout la solution, parce qu'on voit bien que le modèle économique répond à une partie de la société, hein. On dit très souvent que c'est élitiste, et c'est vrai, en fait, il y a vraiment une partie de la société, des couches sociales qui peuvent se le payer. L'idéal, ce serait de ramener tout ça au sein des écoles publiques, et donc que dans les écoles publiques, on puisse choisir.
J'ai envie de dire que même pour les créateurs d'école, c'est même un projet professionnel qui est d'une complexité extrême, même pour trouver son business model, etc. C'est vrai que c'est, pour tout le monde, c'est un modèle qui est, je trouve, très compliqué.
Oui, puis toi, tu es bien placé pour le savoir avec ta maman.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça.
Mais oui, c'est clair, c'est hyper difficile. Alors moi, j'ai une idée, mais en fait, cette école, moi, je ne l'ai pas encore créée, mais c'est encore plus challengeant. En fait, mon idée pour faire baisser les coûts, ce serait qu'il y ait un centre de formation pour les enseignants en plus, un centre de formation pour les parents et pourquoi pas un centre de connaissance de soi, tu sais, pour tout le monde. Parce que dans les centres de formation, si on se débrouille bien, qu'on arrive à avoir un agrément, un numéro de formateur, on peut faire passer donc des formations et donc du coup, ça, c'est des sous en plus qui rentrent dans l'école et donc du coup, ça permet aussi après de baisser les coûts pour les parents. Mais bon, là, je te laisse imaginer, c'est qu'il faut gérer en plus un centre de formation pour les enseignants, pour gérer le centre de formation. Enfin voilà, c'est plus complexe. Il y a des écoles déjà qui le font, hein. Qui se sont basés en fait sur ce principe-là, ça a l'air de fonctionner, mais c'est vrai que c'est on n'est plus dans la gestion d'une école qui déjà en elle-même nécessite un temps, une énergie colossale, quoi.
Ben ouais, c'est ça. Et j'aimerais bien savoir quelle découverte tu as faite en particulier à travers ces témoignages. Donc toi, tu connais bien quand même ce système des écoles alternatives, mais est-ce que tu as découvert des choses particulièrement intéressantes ?
Ben, sans trop spoiler le livre, pour moi, ce qui est ressorti et ce qui est dingue, en fait, quand j'ai interviewé les gens, parce que, bah, évidemment, c'est des personnes qui se connaissent pas, c'est la notion de liberté. Et bon, je m'attendais à rien, hein, en les interviewant, c'était... Mais vraiment, ça, c'est sorti, c'est fou. Et chacun, là, maintenant, en tant qu'adulte, cultive vraiment cette liberté. Comme un don précieux. Ils ont tous retenu ça dans toutes les pédagogies différentes. Que, bah, par exemple, quand je parle de liberté, ça va être le contact avec les enseignants, qui va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, et donc les enseignants plus accessibles. Ça va être dans leur façon et leur pédagogie pour apprendre, leur méthodologie d'apprentissage. Ça va être à plein de niveaux. Il y en a beaucoup aussi qui disaient dans cette notion de liberté d'avoir comme s'il y avait une continuité entre ce qu'ils vivaient à l'école et ce qu'ils vivaient à la maison, comme si les deux en fait, étaient impliqués. Et donc, dans le cocon familial, ils avaient le sentiment, quand ils allaient à l'école aussi, de ressentir aussi ce côté famille, tu sais, l'école. Qui, bah, faut pas se voiler la face, on le ressent pas quand on va à l'éducation nationale. Enfin, dans les écoles traditionnelles, c'est pas du tout ce qu'on ressent, quoi. Et ça, c'est vrai que ça s'est ressorti quand même beaucoup de fois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, après, s'il y a un troisième point qui est évident, c'est cette notion de connaissance de soi, qu'on peut appeler aussi de savoir-être. Et ça, alors, ça aussi, c'est dingue parce que vraiment, tout le monde l'a dit, bon, chacun avec ses mots, hein. Mais le fait de se connaître assez tôt, les a amenés en fait à vraiment choisir, j'allais dire, beaucoup plus facilement. Et donc, in fine, pour certains, et c'est quasiment 80%, ils passent de l'école alternative après donc au collège ou au lycée, donc école traditionnelle. Et quand même beaucoup, 80% disent qu'ils ont une certaine facilité après à s'adapter dans le système. Certains avec des difficultés, mais au final, tout ce qu'ils ont appris dans ces écoles alternatives, les amènent vraiment à mieux se connaître et donc du coup à mieux s'adapter. Et puis, bah, surtout après, dans leur trajectoire professionnelle en tant qu'adulte, à savoir quand même de manière beaucoup plus précise ce qu'ils ont envie de faire.
Ouais.
Alors, soit ils créent leur activité, soit ils tendent dans des entreprises qui donnent du sens, mais il y a toujours quelque chose qui est rattaché à leurs propres valeurs, au sens, à l'écologie aussi, à l'environnement. Ouais, il y a vraiment plein de prises de conscience en réalité. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça rejoint un de mes postulats de départ que tu disais en intro, comme quoi tout part de l'éducation. Et je me rends compte de plus en plus, mais j'avais ce constat il y a 10 ans en arrière, qu'on est vraiment face à des phénomènes sociétaux qui sont quand même de plus en plus compliqués, voire très anxiogènes pour une grande partie de la population. Et si on a envie de répondre là aux futurs enjeux, hein, de tous les niveaux, santé, éducation, environnemental, politique, etc., on a vraiment besoin d'avoir des enfants en fait qui réfléchissent de manière très différente de ce que nous on réfléchit à l'heure actuelle. Force est de constater que cette nouvelle génération qui a 20-30 ans, elle, c'est bon, c'est déjà acquis, elle a déjà conscience de beaucoup de choses, mais il faut continuer à aller dans ce sens-là pour que vraiment une grande majorité, que notre système en fait amène les enfants à conscientiser tout ça et que eux soient futurs acteurs de nouvelles solutions, force de proposition pour faire avancer le schmilblick, j'allais dire dans le bon sens, quoi. Là encore, je regardais, je ne sais pas si tu les as vus, il y a trois bons reportages de Cyril Dion sur Arte, qui s'appelle Un Nouveau Monde, très intéressant. Et puis, c'est un peu son combat quand même en tant que militant, hein, depuis 15 ans, de tirer la sonnette d'alarme, hein, depuis 15 ans. Et il essaye avec tous les outils, hein, en écrivant des livres, en donnant des conférences, en étant invité sur des plateaux télé politiques, en faisant des films. Enfin voilà, il essaye à tous les niveaux depuis 15 ans. Ça y est, maintenant, on commence à s'en rendre compte de plus en plus qu'effectivement, faudrait peut-être arrêter de trop polluer notre planète et revenir à une agriculture plus raisonnée, replanter les arbres, etc. Mais il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation et je le rejoins beaucoup en fait sur ce qu'il fait parce que ça part encore là pour moi une fois de plus de l'éducation et c'est ce qu'il dit dans un de ses troisième volets, c'est plus on va amener les enfants à être sensibles à la nature, plus on va les amener à vivre des expériences dans la nature, à, tu vois, à vraiment en contact avec la nature et plus ils vont être sensibles à elle, plus ils vont la protéger et plus ils feront des actions aussi je pense pour aller dans ce sens-là. Donc on a des enjeux qui sont très importants et pour le moment, il y a une grande partie des écoles alternatives qui répondent à tout ça. Je dis une grande partie parce que on peut pas mettre tout le monde dans le même lot. On voit bien que l'école traditionnelle tend de plus en plus aussi dans cette direction, mais pas assez vite. On a besoin que ça aille beaucoup plus vite parce qu'on voit bien que ça va très très vite tout autour de nous. Et c'est vrai que notre système éducatif, lui, est très lent. C'est une super nouvelle hein, parce qu'on avance vraiment dans la bonne direction, mais c'est encore trop lent, quoi. Il faut donner encore un petit coup de boost pour que ça aille beaucoup plus vite, quoi.
Ça, c'est clair. Est-ce que tu as eu l'impression, quand tu as interrogé toutes les personnes qui ont participé à ton magnifique projet, que souvent le choix de l'école alternative avait été fait comme un choix de dernière chance, de seconde chance? Je te demande ça parce que nous, c'est un constat qu'on avait. Bon, c'était à l'époque où mes parents avaient créé leur école, donc moi, c'était il y a 15 ans. Et c'est vrai qu'on avait souvent l'impression que les parents se retournaient vers les écoles alternatives parce qu'il y avait eu un échec avec le modèle traditionnel. Est-ce que tu as l'impression que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Ah ouais, oui, j'entends beaucoup ça. D'ailleurs, que ce soit de la part des enseignants que de la part des parents.
Ouais, c'est vrai.
Il y a beaucoup d'enseignants qui quittent aussi le système pour créer des écoles alternatives parce qu'ils sont plus du tout en accord avec le système. Alors, les proportions, je ne les connais pas. Mais force est de constater, si tu me dis que toi, ça date d'il y a 15 ans, que ça n'a pas vraiment évolué, j'ai envie de dire, dans le bon sens. Même si je suis optimiste et positif, et je vois bien, d'ailleurs, pour parler des enseignants, de mon prisme et en étant hyper synthétique, j'ai l'impression qu'il y a au moins 50% des enseignants de l'éducation traditionnelle qui essayent des choses, tu vois, qui se passent un peu en tant que chercheurs et qui vont se former à l'extérieur, en fait, et qui passent des choses dans leur classe. Et puis, il y en a encore 50% qui sont pas encore prêts pour X raisons. Faut pas l'en vouloir, hein. C'est comme ça, en fait, c'est une question de conditionnement, mais ils y viendront, je pense. Donc, 50% d'enseignants qui vont dans le bon sens, ça va inspirer aussi les autres, forcément, ça sème des graines. Donc moi, je vois plutôt ce côté-là. Mais c'est vrai que, et pour les écoles alternatives qui se créent, et pour les écoles alternatives dans lesquelles on va mettre des enfants quand on est parent, souvent, quand même, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que on trouve pas de solution auprès des écoles traditionnelles. Et alors, après, il y a un nouveau phénomène aussi, parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu trop démocratisé, pour le coup, et qu'on dit trop souvent maintenant, ah oui, j'ai un enfant HP, ah oui, tiens, j'ai un enfant... Ah oui, j'ai un enfant. C'est comme si c'était un peu genre la mode. Alors pourquoi pas, hein, mais je trouve que le diagnostic il tombe un peu trop vite là. Ça me paraît un peu étonnant. Et donc du coup, il y a beaucoup aussi de parents qui ont des enfants qu'on dit un peu atypiques, qui veulent mettre leurs enfants dans les écoles alternatives parce qu'ils pensent que ça va être mieux en fait pour leur enfant. Mais je pense que c'est hyper important de rappeler que une école alternative, c'est comme n'importe quelle entreprise en fait, comme n'importe quelle école. C'est pas parce que c'est Montessori, Freinet, Reggio, ce que vous voulez, que ça va être bien pour votre enfant. Là où il faut s'attarder, c'est sur le directeur ou la directrice, l'équipe pédagogique, prendre le pouls, faire appel à son intuition et voir en fait si les gens sont bien en fait, tout simplement. Si c'est des gens bienveillants, empathiques, s'ils sont bien formés, etc. quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, on le voit d'ailleurs avec les écoles Montessori où en fait il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un label à proprement parler pour monter une école Montessori. Donc c'est vrai que
bah oui, c'est ça.
Tout se base sur l'humain.
Alors après, ce qui est peut-être un petit peu mieux, c'est que maintenant l'État se mêle un peu de tout ça et que pour créer une école alternative, il faut être adoubé par l'État maintenant. Je dis maintenant parce qu'il y a encore quelques années en arrière, il suffisait de créer une association et on pouvait créer une école alternative. Donc ça, à mon sens, ça a laissé la place à n'importe qui, quoi, en gros, pour créer une école. Bon, bah maintenant, c'est un peu plus réglementé. Je ne sais pas si ça arrange les choses, mais peut-être ça permet de limiter un peu la casse, quoi. C'est possible. Mais bon, enfin, si on regarde bien le projet, ils ont décidé de faire ça parce qu'ils ont estimé qu'il y avait trop d'écoles qui formaient des djihadistes.
Oui, oui.
Donc, ils ont mis tout le monde dans le même lot.
Ouais, c'est ça.
On ne sait pas si c'est une bonne nouvelle non plus. Quoi.
C'est bien dommage.
Ben oui, c'est ça, ouais.
Notamment pour l'instruction en famille.
J'allais en parler, justement, pour l'instruction en famille, mais ouais, c'est clair. Ouais. Surtout que ça ne concerne pas énormément de familles sur notre territoire, hein, d'avoir légiféré autour de ça, c'est, enfin, pour moi, c'est un grand n'importe quoi.
On arrive déjà à la fin de cet échange. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer autour du prochain congrès que tu organises ?
Bah oui, de venir. De venir parce que, mais comme je le dis chaque fois pour les événements qu'on organise, c'est que oui, la programmation est super intéressante. Les exposants qui sont sur place aussi, il y en a une vingtaine, ils sont aussi super intéressants. Mais pour moi, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est toutes ces personnes qui viennent. Et donc là, alors, je trouve ça très intéressant cette année, c'est assez particulier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent des pays de l'étranger, beaucoup plus que les années précédentes. Pour aller plus loin, ça vient de Nouvelle-Calédonie quand même. Je trouve assez hallucinant de se payer un billet d'avion, de faire 72 heures pour venir à Bordeaux pour un congrès qui dure 2 jours autour de l'éducation. J'espère qu'ils viennent pas que pour ça. Mais quand même, il y en a beaucoup qui viennent de plein de pays d'Europe, enfin de Maroc, de Tunisie, un petit peu de partout. Et puis, surtout, il y a, une fois de plus, parce que nous, on voit qui s'inscrit. Donc, il y a des gens qui font partie de plein d'organismes, en fait, du ministère, je vais me répéter, mais de l'UNESCO, de fondations et tout, etc., qui viennent. Et je trouve que c'est un bon point de convergence pour rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas dans la vie de tous les jours. Et donc, pour moi, c'est typiquement le lieu où il faut repartir de là en ayant discuté avec un maximum de personnes, en fait. Parce qu'il y a plein de rencontres à faire, plein de choses à créer, en réalité, quoi. Ouais, et donc, venir juste pour assister aux concerts, aux conférences, et ne pas être un minimum sociable pour discuter avec toutes ces personnes qui sont présentes sur place, pour moi, c'est passer totalement à côté du congrès, en réalité.
Ouais.
Donc, c'est que 2 jours dans l'année, et c'est assez rare de se rencontrer, en fait, dans des lieux comme ça, quoi.
Je suis bien d'accord. Et ben bravo pour tout ce que tu fais. Ça nous inspire beaucoup.
Merci beaucoup, Stéphanie.
Merci, bye bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.